Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Mardi prochain, le 1er septembre, Franck Ferrand a bien l'intention de célébrer le tricentenaire de la mort de Louis XIV. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. En effet, nous serons pour l'occasion dans la chambre du roi, donc à Versailles, à l'endroit même où le plus célèbre monarque de l'histoire de France a rendu son dernier soupir. C'était le 1er septembre 1715. Dès la veille, lundi, nous ouvrirons le banc avec une émission consacrée à Louis XIV en compagnie de Jean-François Solnon. Et mieux que cela donc, chère Anissa, dès aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'heure du grand siècle, à l'ère de Versailles, en évoquant la figure du jardinier de Louis XIV, celui qui a fondé son potager, j'ai nommé La Quintigny. Son prénom était Jean-Baptiste et le prénom de notre invité d'aujourd'hui n'est pas André, même s'il est le digne successeur d'André le Nôtre, c'est Alain Baraton, bien entendu, chacun aura rectifié.
Et tout à l'heure, Franck, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Martin sur les moyens employés autrefois pour entretenir les jardins.
Oh, je pense qu'Alain Baraton m'aidera à répondre à cette question. Et peut-être aussi, monsieur de la Quintigny.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Alain Baraton n'y va pas par quatre chemins, il est très clair dans son dictionnaire amoureux des jardins. Jean-Baptiste de la Quintigny, nous dit-il, fut sans conteste le plus grand jardinier du XVIIe siècle et peut-être même de tous les temps. Et c'est vrai que ce personnage relativement méconnu, on cite toujours le très grand paysagiste de ce temps, l'inventeur des grands espaces à la française, Le Nôtre bien sûr, et l'on a tendance à oublier dans l'ombre de Le Nôtre celui qui a été le jardinier par essence, et nous allons voir ce que cela recouvre bien entendu, c'est-à-dire monsieur de la Quintigny, personnage étonnant, belle âme, comme nous le disions il y a un instant, un agronome passionné par son métier. Il est passé bien sûr à la postérité pour avoir créé le potager du roi à Versailles, potager classé monument historique et jardin remarquable. Mais aujourd'hui, bien rares seraient ceux qui seraient encore capables de reconnaître la Quintigny sous les traits de sa statue. Car vous savez qu'aujourd'hui encore, muni d'un greffon et d'une petite serpe, il est là qui veille en statue sur son potager. Il faut vous dire qu'il est venu tard à la profession et qu'il y est venu par des chemins assez inhabituels. Le moins qu'on puisse dire est que le parcours de la Quintigny est passionnant. D'abord, il était né en Charente, ce Jean-Baptiste. Il était né à Chabanais en mars 1626, dans une bonne famille qui était établie là depuis le XIVe siècle. Quand je dis bonne famille, son père, Guillaume de la Quintigny, était conseiller du roi. Il était détenteur d'une charge financière assez importante. Les La Quintigny, on n'est pas tout à fait dans la noblesse, en tout cas pas du tout dans la vieille aristocratie. On est dans cette nouvelle noblesse de robe, en fait, dans cette grande bourgeoisie de la magistrature, si vous voulez. Quant à sa mère, Françoise née Morand, elle est issue d'une famille de chirurgiens. Là encore, n'imaginez pas les chirurgiens tels qu'ils sont aujourd'hui. Mais en tout cas, elle est issue, disons, de la bonne bourgeoisie. Au départ, la formation de Jean-Baptiste est une formation classique. Il ne se destine pas du tout à devenir jardinier. Je pense qu'on l'aurait beaucoup surpris en lui annonçant d'ailleurs qu'il serait jardinier. Il fait ses études au collège des Jésuites à Poitiers. Ensuite, on le voit continuer son droit à la faculté. Il étudie également la philosophie et ça n'est pas un hasard, car il y a évidemment chez cet homme l'étoffe d'un philosophe. Il y a une réflexion permanente et une méditation qui accompagne la Quintigny dans son parcours. Pour le moment, il se destine à la profession d'avocat. Ses frères également, d'ailleurs, ont des parcours assez classiques. Son frère aîné, Jean, va prendre la suite de son père comme conseiller du roi. Quant au frère cadet, Pierre, il suit les traces maternelles et il va devenir chirurgien-major du roi. Donc, on est quand même tout ça dans la bonne fonction publique, si je puis dire. Après ses études, la Quintigny est reçu à Paris comme avocat à la cour du Parlement et maître des requêtes de la reine, donc un très bon poste. Il fait partie des quelques dizaines de collaborateur du chancelier de France. Le chancelier, je vous le disais l'autre jour, c'est un peu un ministre qui était à mi-chemin entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Il était garde des Sceaux. C'est la personne qui gère les affaires juridiques du royaume. La profession de la Quintini l'amène évidemment à rencontrer toutes sortes de personnages importants, et notamment le président de la Chambre des Comptes, l'ancêtre de notre Cour des Comptes, Jean Tamboneau, qui le remarque et qui va lui confier l'éducation de son fils, Michel, qui doit partir faire son grand tour en Italie. Vous savez, c'était l'époque où les jeunes gens de bonne famille allaient polisser leurs mœurs et accroître leur culture au soleil d'une Italie qui était considérée, à juste titre du reste, comme le creuset de la culture et de la civilisation. Jean-Baptiste de la Quintini, qui voulait depuis longtemps connaître l'Italie, part donc avec Michel Tamboneau. Est-ce que c'est au cours de ce voyage, est-ce que c'est pendant ces pérégrinations italiennes qu'il a eu l'idée de se tourner vers le jardinage? C'est très probable quand on sait que les jardins italiens à l'époque sont les premiers d'Europe. Ça a changé tout ça par la suite, mais n'oubliez pas qu'on est encore dans la première moitié du XVIIe siècle. Dans les années 1650, c'est vrai qu'on est en train de voir se développer un peu partout en France et notamment dans la région parisienne autour des grands châteaux royaux un certain nombre de jardins importants avec des jardins potagers. C'est en 1651 qu'est publié Le jardinier François de Nicolas de Bonnefond, qui est en quelque sorte le premier traité moderne d'horticulture et de jardinage. Le jardinier français, comme nous dirions nous aujourd'hui. Toujours est-il que lorsque la Quintini rentre d'Italie, il est désormais passionné par toutes ces histoires de botanique, de culture. C'est son domaine, incontestablement. Il va lire les auteurs anciens, Pline notamment, bien sûr, ou Columelle. Il lit un ouvrage consacré à Antoine Legendre, qui a été contrôleur des jardins fruitiers de Louis XIII. Il visite le jardin botanique de Montpellier, le plus ancien de France, puisqu'il a été fondé au XVIe siècle. La Quintini va surtout s'intéresser à la pratique des choses. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que jusqu'alors, on a bien affaire, vous l'avez compris, à un pur intellectuel, si je puis dire. Eh bien, dans le jardin de l'hôtel particulier des Tamboneau, à Paris, il va se lancer dans quelques cultures. Alors, encore une fois, ça lui a cette proximité des Tamboneau lui permet de rencontrer le grand Condé, de rencontrer le jeune Colbert, de rencontrer la princesse Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier. Il effectue également des voyages, non seulement dans certaines provinces, juste pour le plaisir de voir un jardin, mais en Angleterre. N'oublions pas que en Angleterre aussi, on est en train de se lancer dans la grande aventure des jardins. Il va d'ailleurs correspondre pendant longtemps avec la Société Royale de Londres, qui est la plus importante société scientifique d'Europe de l'époque, et il sera, figurez-vous, sollicité par le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre à l'époque, c'est Charles II. Eh bien, le roi d'Angleterre va demander à monsieur de la Quintini de s'occuper d'un de ses jardins. Donc, sa réputation commence à être faite. Il va refuser, décliner l'offre du roi d'Angleterre pour retourner en France, où sa renommée devient vraiment très importante, et se mettre au service. Alors, on se dit se mettre au service du roi. Il a 35 ans, là on est en 1661. Mais celui qui, à l'époque, est à la tête de tout, celui qui est à l'origine, notamment, du plus grand projet d'architecture et de jardin de l'époque, c'est le contrôleur, le surintendant des finances, Nicolas Fouquet. Et c'est au service de Fouquet que la Quintini va entrer au château de Vaux-le-Vicomte. Sauf que je vous ai donné la date, 1661, et que l'on est tout près, vous savez, la roche tarpéienne est proche du Capitole. On est tout près de cette date du 17 août 1661 qui va marquer la fin, la disgrâce de Fouquet, la chute de Fouquet. La Quintini fait partie de tous ceux qui, travaillant jusqu'alors pour le surintendant, vont être versés dans les domaines royaux, si je puis dire, et il va s'occuper d'un certain nombre de jardins du roi. C'est cette époque d'ailleurs, c'est à cette époque qu'il va épouser Marguerite Joubert, qui va lui donner trois fils. Il n'y en a qu'un des trois seulement qui lui survivra. Alors, la Quintini travaille bientôt dans les châteaux du roi, aux côtés d'un célèbre paysagiste, puisqu'il s'agit de Lenôtre, bien entendu, et c'est à Versailles qu'il va donner bientôt la pleine mesure de son talent.
Le quadrille de Wellington, composé par Vladimir Kosma, c'est un extrait de la bande originale du film Le souper d'Edouard Molinaro à l'instant sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck, vous nous emmenez à Versailles, et plus précisément au cœur des jardins du château, à la découverte de Jean-Baptiste de la Quintigny.
Et oui, c'est un jardin bien particulier qui va nous intéresser maintenant, puisque c'est le fameux potager du roi, hein, qui est tout près du château et qui fait partie, bien sûr, du domaine royal. Un potager du roi assez extraordinaire et dont subsistent aujourd'hui d'importants vestiges. Nous allons revisiter tout ça avec Alain Baraton dans un instant. Alors, je vous ai dit que la Quintigny côtoyait le nôtre, il va même collaborer. Ils travaillent ensemble à Chantilly, donc à Chantilly c'est chez les Condé, à Sceaux chez Colbert, qui est le tout puissant ministre de Louis XIV depuis la mort du cardinal de Mazarin. On voit également la Quintigny s'intéresser à Choisy-le-Roi, où il travaille pour la duchesse de Montpensier, à Rambouillet, où il travaille pour le duc de Montausier. Bref, dans toutes les grandes demeures où l'on installe déjà des potagers, car c'est bien ça qu'il l'intéresse, lui, tout particulièrement. Il devient en 1670 le directeur des jardins fruitiers et potagers des maisons royales. Donc on n'est pas là dans le jardin d'agrément, on n'est pas dans le jardin uniquement paysager, dont le but est de prolonger par ses grandes perspectives la splendeur des décors royaux. On est dans un jardin qui doit produire des fruits et des légumes, disons les choses comme elles sont. Le brevet qui nomme en 1670 la Quintigny est naturellement signé de la main du roi. Aujourd'hui, 7 mars 1670, le roi étant bien informé de l'expérience et de la parfaite connaissance que le sieur de la Quintigny s'est acquise dans la culture de toutes sortes d'arbres fruitiers, et voulant que ces maisons royales soient remplies à l'avenir des arbres les plus rares et portant les meilleurs fruits, a cru n'en pouvoir donner le soin à une personne plus intelligente qu'au dissieur de la Quintigny, qu'il a retenu et retient pour prendre soin de tous les arbres fruitiers qui sont déjà plantés et le seront à l'avenir dans ces maisons royales. Voyez la beauté d'un style qui pourtant se veut administratif à l'époque, mais la confiance du roi et de l'administration sont là. La Quintigny a joui d'une réputation tout à fait remarquable. En 1678, donc 8 ans plus tard, il entreprendra la création d'un tout nouveau potager du roi, et c'est là, c'est dans ce cadre-là, qu'il va transformer le jardinage, si je puis dire, en un art extrêmement savant. Alors, la tâche s'annonce difficile, parce que si vous voyez où est situé le potager du roi à Versailles, c'est l'emplacement d'un ancien marécage, c'était des terres nauséabondes, gorgées d'eau stagnante, on appelait ça d'ailleurs l'étang puant, donc tout est dit. C'est un lieu qui fait environ 9 hectares, et il va falloir, pour amender les terres de ce nouveau potager, 5 ans de soins extrêmement méticuleux et précis. Il a fallu rapporter beaucoup de terres, bien entendu, il a fallu reterrasser, enfin faire un travail considérable. Jules Hardouin-Mansart est là, bien entendu, pour tout ce qui concerne les bâtiments, les élévations, car il y a des murs. Et le potager va être une affaire de murs avant tout, pour deux raisons. D'abord, pour empêcher les gens de venir tout simplement se servir à la nuit tombante ou tomber et faire du potager du roi leur propre garde-manger. Et puis aussi, et peut-être surtout, parce que c'est la grande époque des cultures en espalier, on va y venir, et que les murs jouent dans l'art, dans le savant art de Monsieur de la Quintigny, jouent un rôle tout à fait considérable. Alors il faut vous dire que on a carte blanche hein, et des crédits quasiment illimités pour créer ce potager dont Louis XIV veut faire une sorte de modèle à l'échelle de toute l'Europe. Alors à quoi ressemble-t-il ce potager du roi? Eh bien, vous avez un parterre central qui est divisé en 4 carrés, eux-mêmes subdivisés en 4 carrés. Ça donne donc 16 carrés de légumes. Et tout autour de ce parterre central, on compte 29 enclos pour multiplier, comment est-ce qu'on pourrait dire, les climats favorables, en quelque sorte, et permettre de cultiver un certain nombre de fruits, notamment, qui ne viennent que dans des conditions particulières. J'y viens dans un instant. Cette organisation, elle vient essentiellement d'Italie, et il est très probable que la Quintigny en ait eu le modèle lorsqu'il visitait les grandes villas autour de Florence, notamment. Je vous disais que notre homme va développer la culture en espalier. C'est ce qui permet d'abord d'abriter les arbres fruitiers des vents dominants, et c'est ce qui permet de favoriser leur ensoleillement par la réverbération, bien entendu. Ça fait quasiment un effet de comme un effet de four, si vous voulez, ce qui permet d'avoir des fruits plus précoces, plus gros, plus juteux et plus sucré. Ben, c'est tout ce qu'on veut, ça, bien entendu. Donc l'arbre est taillé court, les branches sont étendues contre le mur, et on fait ça pour les poiriers, bien entendu, pour les pêchers, les pruniers, les figuiers, etc. Il faut vous dire que si la quintinia a une passion, c'est celle de l'acclimatation. On parle beaucoup des jardins d'acclimatation qui fleurissaient, qui voyaient le jour notamment dans les ports, vous savez, puisqu'on rapportait du monde entier à l'époque où voyager était encore toute une aventure, on rapportait des espèces et des essences rares qu'il s'agissait d'acclimater sous nos cieux. Eh bien, cette acclimatation, c'est en quelque sorte la passion de la quintinie qui découvre le melon, les figues, j'en parlais, le café, etc. Et il comprend très vite que les cloches pour les petites espèces, et puis carrément les serres, lorsqu'on va vouloir avoir des cultures plus importantes, sont une condition nécessaire pour permettre à certains fruits, ou même à certains légumes, de venir, et notamment de venir à des saisons qui sont rigoureuses. N'oubliez pas qu'on est dans ce qu'on appelle, à l'échelle de l'histoire, le petit âge glaciaire, que les hivers sont longs et très rigoureux à Versailles, surtout à Versailles, qui du reste se trouve être en plus assez mal exposé. Donc, grâce à ses serres, grâce à ses murs, grâce à toute la technique qu'il va peaufiner, la quintinie crée ce qu'on appelle les primeurs, c'est-à-dire un large choix de fruits et de légumes qu'on peut manger hors saison ou dans les tout débuts de la saison. Vous imaginez la fierté pour le roi de présenter ça à sa table et de l'offrir à ses invités. Inutile de vous dire que la faveur de la quintinie est un peu comme les mauvaises salades, elle monte en flèche.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites découvrir les secrets et l'histoire du potager du roi du château de Versailles.
Et oui, des laitues en janvier, vous imaginez, des concombres en avril, des asperges et des petits pois, une grande partie de l'année. Il faut dire que Louis XIV adore les petits pois, il n'est pas le seul. Madame de Maintenon se moque de tous les courtisans qui veulent ressembler au roi en faisant des petits pois une sorte de mets d'excellence. L'impatience d'en manger, écrit-elle, le plaisir d'en avoir mangé et la joie d'en manger encore sont les trois points que nos princes traitent depuis 4 jours. Il y a des dames qui, après avoir soupé avec le roi, et bien soupé, trouvent des pois chez elles pour manger avant de se coucher, au risque d'une indigestion. C'est une mode, une fureur, et l'une suit l'autre, évidemment. Alors pour obtenir de telles prouesses, il faut bien sûr que la quintinie soit aux petits soins. Il y a quand même à la cour, en permanence, entre 3 et 5 000 personnes à nourrir, parce que quand on dit la table du roi, bien entendu, il faut penser à toute la cour qui se nourrit sur ce potager du roi. Alors bien sûr, on met beaucoup d'engrais, hein, du fumier de bovin, de vache, de cheval. J'aime bien l'expression de la quintinie qui les considère comme une espèce de monnaie qui répare les trésors de la terre. Mais surtout, il y a tous les artifices dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà ce qu'écrit la quintinie lui-même en 1690 dans son instruction pour les jardins fruitiers et potagers. La chaleur, tant dans la terre que dans l'air, ne peut régulièrement venir que des rayons du soleil. J'ose dire pourtant que j'ai été assez heureux pour limiter, le soleil donc, limiter en petit à l'égard de quelques petits fruits. J'en ai fait mûrir 5 ou 6 semaines d'avant le temps. Par exemple, des fraises à la fin mars, des précoces et des pois en avril, des figues en juin, des asperges et des laitues, pommes en décembre et en janvier. Alors, on parle beaucoup de tous ces fruits variés, des fraises juteuses que Louis XIV dévore littéralement, ce qui d'ailleurs perturbe considérablement son régime alimentaire, si l'on en croit ses médecins. En avril, on cueille des kilos de cerises au potager du roi. À la mi-juin, pendant 6 mois, le roi peut se délecter donc de figues. Mais il y a aussi à Versailles des kakis, des grenades, des oranges, des abricots, des pommes, des poires, des noisettes, des prunes. Alors, nous qui sommes habitués aux étalages absolument profus de nos marchands de fruits et primeurs, on trouve ça tout à fait normal. Mais dites-vous qu'au beau milieu du XVIIe siècle, trouver à Versailles tous ces fruits dont les trois quarts sont des inventions, si je puis dire, qui viennent tout juste d'arriver, c'est tout simplement mirobolant et ça fait partie en quelque sorte de la fête permanente que doit être ou que devrait être la vie de cour. La Quintini livre aussi régulièrement sa production au service de la bouche, ce qui permet de faire entrer tous ses mets, bien entendu, dans l'accommodement des entremets, des potages, de toutes sortes de sauces, etc. On peut dire qu'à Versailles, la table est la plus variée, la plus prestigieuse, la plus aboutie de toute l'Europe à cette époque. Alors, le potager est un lieu de culture, vous l'aurez compris, mais c'est aussi, et ça doit devenir, et ça fait partie des préoccupations de la Quintini, un véritable lieu de promenade où l'on voit le roi lui-même venir souvent. Il prie la Quintini de lui livrer ses secrets de jardinage, de lui expliquer ses innovations. On voit Louis XIV de temps en temps prendre lui-même le sécateur et s'essayer à une taille. Il y a une véritable fascination pour du roi, pour tous les arts d'une manière générale, pour toutes les prouesses du savoir et du savoir-faire, et là en l'occurrence, l'art du jardinage, surtout quand c'est la Quintini qui l'exerce, fascine littéralement Louis XIV. Il y a autour du roi évidemment un grand nombre de curieux qui sont là et qui posent des questions à la Quintini, des jardiniers qui viennent de toute l'Europe, des botanistes, des savants, les ambassadeurs demandent à être reçus dans ce potager. Dans les mémoires de Louis-Nicolas de Breteuil, on sait que le potager était visité et à la fin une collation était organisée. On y dégustait des confitures liquides, alors les confitures, c'est-à-dire des fruits qu'on avait fait cuire, hein, tout simplement, des confitures sèches, ce que nous appelons nous aujourd'hui des pâtes de fruits, des liqueurs, tout ça évidemment devient autour de la Quintini un objet de jalousie. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que on se dit, mais enfin, le roi n'a Dieu que pour ce personnage. D'où vient-il, ce la Quintini? Vous imaginez que ses relations avec un certain nombre des grands officiers de la couronne sont pour le moins tendues, et tout particulièrement avec le nôtre, bien entendu, car ils n'ont pas la même conception des jardins. La Quintini accuse le grand le nôtre de privilégier les parterres, les broderies, les agencements artistiques, les courbes, les arabesques, etc. Bref, le décor au détriment de ce qui doit constituer le fond même et le fruit même d'un jardin. Ça, c'est le grand débat qui existe toujours aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire et sur lequel nous allons revenir dans un instant avec Alain Baraton. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on regarde la Quintini, c'est bien à un scientifique que l'on a affaire. Un homme qui a écrit d'ailleurs énormément qui a beaucoup laissé d'ouvrages, hein, et de conseils et de textes. Il veut laisser une trace, contrairement à le nôtre. D'ailleurs, la nature qui prend plaisir à ne rien refuser à votre majesté, écrit-il au roi, et qui la regarde en effet comme le plus parfait de ses ouvrages, a sans doute réservé pour son auguste règne ce que la terre a caché à tous les siècles passés. Ce n'est qu'à force de sueur que les hommes ordinaires arrachent du sein de cette mère commune ce qu'ils sont obligés de lui demander tous les jours pour leur subsistance. Mais pour peu que votre majesté continue à favoriser de ses regards ceux qui ont l'honneur de la cultiver dans ses jardins, nous verrons à la gloire de notre monarque et à l'avantage du genre humain que ce qui a été inconnu à toute l'Antiquité ne le sera plus désormais pour personne. C'est un peu Prométhée, finalement, ce la Quintini qui veut donner les fruits aux hommes. Nous y revenons dans un instant avec Alain Baraton.
Un extrait des symphonies pour les soupers du roi composé par Michel Richard de Lalonde à l'instant sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand, nous sommes avec vous au cœur du château de Versailles, enfin plutôt à l'extérieur, hein, puisque
oui,
nous découvrons avec vous les jardins et le potager du roi. Votre invité cet après-midi, c'est Alain Baraton, jardinier en chef du grand parc du château de Versailles et du domaine national du Trianon, également auteur du petit dictionnaire amoureux des jardins paru chez Pocket. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que pour deux livres Pocket achetés, un troisième vous est offert.
Et ce petit dictionnaire amoureux est le petit frère d'un grand, bien entendu, le dictionnaire amoureux des jardins d'Alain Baraton. Alors, on va célébrer, Alain Baraton, le tricentenaire de la mort du roi, du grand roi, de Louis XIV, là, dans quelques heures, maintenant, dans quelques jours. On peut dire peut-être que parmi les choses dont Louis XIV avait tout lieu d'être très fier, il y a ce potager qui avait toute sa tendresse, en vérité.
Oui, bonjour. Oui, un potager inouï, un potager qui était la fierté du royaume. Mais je voudrais, si vous le permettez, revenir sur deux expériences menées par Jean-Baptiste de la Catinée. Elles sont moins connues, mais elles méritent, je crois, vraiment d'être connues. Lorsque Louis XIV ordonne la construction du Grand Trianon, Louis XIV se passionne pour un arbre fruitier, l'oranger. L'oranger est vraiment son arbre adoré, et il veut que des orangers ornent les jardins de Trianon. C'est Jean-Baptiste de la Catinée qui va avoir l'idée de les planter en pleine terre. Les
orangers en caisse, comme on faisait l'habitude.
Oui, tout à fait. Les orangers seront donc disposés à même le sol, recouverts en automne, une structure en bois et en verre, et cette structure sera retirée au printemps. Imaginez que sous Louis XIV, on découvre à Versailles des orangers qui fleurissent et qui fructifient. Il n'en faut quand même pas plus pour immédiatement que l'on considère le roi comme un dieu, vraiment un dieu tout puissant.
Oui, parce que ça paraissait sous des latitudes aussi nordiques, ça paraissait impensable évidemment d'avoir des orangers en pleine terre. Donc on avait des serres démontables en
on
fait,
avait hein, des
c'est ce qu'il faut
dire. Voilà. Et puis une autre chose, une anecdote qui devrait je pense séduire vos auditeurs. Quantité aujourd'hui encore de jardiniers se demandent si la lune a une influence sur la croissance des plantes.
Oui, oui.
Eh bien, Jean-Baptiste de la Catinée, lui aussi, se pose la question. L'homme, vous l'avez dit, c'est un scientifique, c'est un botaniste, c'est un savant. Alors que fait-il? Il note sur son carnet la date de semis, la date de récolte, la qualité de la récolte et le goût du produit récolté. Il en arrive à cette conclusion que je vous invite à méditer. Je cite la Catinée, la lune, deux points, le prétexte des mauvais jardiniers.
Oui, donc pour lui...
Lui n'y croyait pas, mais vous voyez que cet homme s'intéressait, car ce jardinier à la Catinée était un homme qui voulait comprendre le fonctionnement des plantes. Et je crois, pour revenir à votre question, que Louis XIV était impressionné par cet homme, parce qu'il lui a peut-être expliqué comment tout simplement fonctionnait le monde.
Et oui, c'est-à-dire que ce qu'il y a de fascinant avec la Catinée, à une époque où l'on considère les jardins plutôt pour leur aspect extérieur, lui s'intéresse à la plante de l'intérieur, d'une certaine manière. C'est ça qui est étonnant.
Il s'intéresse à la plante et il la présente d'une manière inouïe. Vous disiez que Louis XIV était très fier de son potager. Il était d'ailleurs si fier de son potager qu'il a fait construire une grille extraordinaire qui permet d'y accéder lorsque l'on descend les fameuses 100 marches et que l'on longe la piézo des Suisses.
Alors cette grille a été restaurée par grâce au World Monument Fund il y a quelques années.
Tout à fait. Cette grille est absolument sublime et elle mérite vraiment le détour. Elle est un petit peu dans l'obscurité, à l'ombre des vieux platanes, mais elle mérite vraiment d'être découverte. Et quand Louis XIV se rendait à la découverte avec des invités de prestige dans le potager, il y venait en grande pompe. Il longeait des alignements de poiriers superbement tenu, c'était la variété citron de Carme, qui est une variété que le roi appréciait énormément, pas autant que la fameuse Bon Chrétien, quel joli nom pour une poire, et le potager faisait la fierté de Louis XIV. L'occasion de rappeler que le potager avant Louis XIV était la partie du jardin que l'on ne voyait pas.
Bien sûr.
C'était la partie pour les gueux. Oui. C'était la partie
c'était
de
produits. C'était une sorte d'annexe de la basse-cour, hein, d'une certaine
c'était
façon.
C'était une basse-cour.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, à la mort de Louis XIV, le potager connaîtra beaucoup quantité de mésaventures, mais l'idée de produire sur un domaine royal des légumes n'aura duré que du temps de Louis XIV et de la Catinée. Très rapidement, on remettra le potager de manière discrète, le réservant aux pauvres, aux gueux, aux gens qui n'ont pas une grande éducation.
On leur mettra à sa place d'une certaine
tout
manière.
Tout à fait, mais sous Louis XIV, ce potager est un lieu exception. Et juste également une petite anecdote pour vous, Franck, qui aimez jouer avec les mots. Il y avait autour de la Catinée des gamins qui avaient pour but de courir dans les cuisines, porter les fines herbes. Les fines herbes étaient précieuses. On n'allait pas s'amuser, vous vous doutez bien, à les cueillir pour rien. Pour être sûr que les produits étaient frais, on commandait et on allait cueillir. Et les jeunes gens chargés de fournir aux cuisines ces précieuses herbes étaient surnommés les galopins parce que justement, ils galopaient du matin au soir.
Alors, ces galopins devaient de temps en temps chiper une pomme ou une poire. Le potager du roi était, on a oublié ça aujourd'hui, mais était une réserve de choses très précieuses, car ces fruits, car ces légumes n'étaient pas sur toutes les tables à l'époque. C'était vraiment des raretés. C'est ça qu'il faut peut-être faire comprendre.
Des raretés, et la Catinée ne cessait de pester contre ces voleurs qui, la
évidemment.
Nuit, montaient le mur pour venir se servir. Ils demandaient sans cesse, effectivement, que l'on augmente la dimension l'extension des murs d'enceinte pour protéger ces précieuses étés. Mais il faut se souvenir qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons des légumes qui viennent de partout, mais du temps du roi Louis XIV, on était capable, grâce à la Catenie, de produire des fruits extrêmement rares. La figue ne poussait que dans les régions les plus ensoleillées du pourtour méditerranéen. On commence à connaître la fraise. La fraise également, on pense souvent à la fraise rapportée au 19e siècle par Monsieur Fraisier. Mais la Catenie est le premier à avoir amélioré la culture de la fraise et fait en sorte que la fraise ne soit plus cette petite fraise des bois, mais une fraise déjà grosse, rouge et juteuse. Et il va même, par la suite, être à l'origine, non pas le créateur, mais à l'origine d'une fraise au joli nom, la Versaillaise.
Eh oui.
Eh oui.
Mais comment faisait-il la Catenie? Parce qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur des travaux préexistants ou très peu. Il était obligé d'inventer en quelque sorte. D'où lui venait ce génie de faire pousser les fruits et les légumes? Il avait la main verte, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je ne cesse de dire qu'un bon jardinier se doit d'avoir deux qualités, le sens de l'observation et de la patience. Eh bien, la Catenie avait un sens vraiment inouï de l'observation et beaucoup de patience. Cet homme observait et cet homme voulait comprendre. Lorsque vous évoquiez tout à l'heure, avec beaucoup d'ailleurs de talent, la taille des arbres fruitiers pour permettre à un arbre d'offrir le meilleur, la Catenie ne s'est pas amusé à tailler, à torturer les plantes. Il a observé le mécanisme, il a étudié le bois quand il est jeune et quand il est vieux. Il a examiné scientifiquement le flux de la sève à l'intérieur de l'écorce. Cet homme ne se contentait pas de regarder, non, il s'entourait également d'élèves qui, à leur tour, lui apportaient quelques observations.
Ça veut dire qu'il a transmis quand même?
Il a énormément transmis. Tout à l'heure, vous parliez du paysagiste et j'ai beaucoup apprécié André Le Nôtre qui ne transmettait rien. André La Quintinine n'avait qu'une hâte, qu'une soif, celle d'apprendre et celle de transmettre. Lorsqu'il est mort, après lui ont succédé quantité de personnes qui ont été capables de mener à bien quantité de créations de potagers parce que justement, il ne gardait rien. Il notait les fameux carnets et c'est un homme qui avait vraiment envie de transmettre. Et aujourd'hui, et c'est une chose extraordinaire, le potager de Monsieur de la Quintinie est devenu une école, comme quoi l'esprit même du créateur est aujourd'hui
maintenu. Ça, c'est formidable. Alors, on va y venir tout à l'heure, on va en parler de l'actuel potager du roi, bien entendu, mais pour en finir, si je puis dire, avec le savoir de la Quintinie, si on devait le résumer, c'est donc le travail sur les essences mêmes, c'est-à-dire qu'il fait très attention à chaque plant qu'il met en terre. L'exposition, l'amendement de la terre, les engrais, etc. Et puis, tout ce qui permet, grâce aux lentilles, grâce aux voiles et grâce aux vers, d'augmenter la chaleur et l'ensoleillement, en gros.
Tout à fait. Cet homme veut déjà comprendre pourquoi une plante a froid et comment faire pour qu'elle n'ait plus froid. Il veut également savoir si le fait qu'une plante ne grelotte pas en hiver lui permettra de fructifier plus tôt. Il constate que oui. Il se rend compte également que le dégagement produit par les fumiers lorsqu'il se décompose est source de chaleur. Il a conscience que les murs ne font pas que refléter la chaleur, vous l'avez parfaitement expliqué, mais sont également capables de créer, en fonction de leur nombre et de leur disposition, des microclimats. Je pourrais dire qu'il est l'inventeur du microclimat du jardin. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je vous invite, quand vous vous promenez à Versailles aujourd'hui, dans les jardins de Le Nôtre ou même dans ceux de la Quintinie, eh bien, quand vous y allez en automne ou en hiver, on sent à certains endroits des différences importantes de température, preuve que cette histoire de microclimat n'est pas fantaisie. Jean-Baptiste de la Quintinie a pris conscience également des besoins en racines. Il a conscience qu'un végétal a des racines. Vous savez, quand vous regardez une plante, on voit toujours les tiges, on voit les feuilles, on voit les fruits, on voit les fleurs. Mais une plante produit sous terre autant d'éléments qu'elle en produit à l'extérieur. La Quintinie en a conscience. Il devient un expert dans l'art de la taille. Lorsqu'il cultive des figuiers, il les cultive en caisse. Mais comment faire pour qu'une plante puisse continuer à grossir sans manquer d'espace? Ça peut sembler stupide et pourtant la question mérite d'être posée. Il y arrivera et la culture aujourd'hui des caisses d'orangers, eh bien on le doit là encore à la Quintinie.
Alors j'ai une question qui me brûle les lèvres, je la pose et vous y répondrez dans un instant. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui à Versailles des plantes qui ont connu Monsieur de la Quintinie?
Un extrait de la bande originale du film Meurtre dans un jardin anglais composé par Michael Nyman. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur des jardins français du château de Versailles. Grâce à vous, Franck Ferrand et votre invité, il s'agit d'Alain Baraton, jardinier en chef du grand parc du château de Versailles et du domaine national du Trianon.
Alors Alain Baraton, il est là. D'abord, il faut peut-être répondre à ma question en fait. Je vous ai demandé s'il y avait des plantes aujourd'hui à Versailles qui ont connu la Quintigny, qui sont encore en vie.
Il existe toujours un vieux chêne qui vit non loin du Grand Trianon sur une pelouse. Ce chêne a été miraculeusement épargné par l'abattage général de 1776 et par la tempête de 1999. Eh bien, il a été planté ce chêne en 1668, ou du moins il a germé. Lorsque l'on sait que la Quintigny est mort en 1688, il a donc connu la Quintigny.
Il avait 20 ans le chêne.
Il avait 20 ans et il l'a vu venir à Trianon quand celui-ci venait venir tailler les orangers.
Quand j'étais adolescent, je me rappelle qu'on présentait dans l'orangerie de Versailles, sublime orangerie de Versailles, un grenadier en caisse dont on disait qu'il avait connu la Quintigny. C'est une légende,
ça ? Il y a aussi un araucaria qui aurait connu Marie-Antoinette. Le problème des caisses d'orangers, c'est qu'il est toujours très difficile de dater les plantes. Les plantes ont connu quantité de modifications. Un oranger mort au début du siècle dernier, lui, datait vraiment de Jeanne d'Arc. Mais aujourd'hui, je doute que les plantes présentes dans l'orangerie soient aussi âgées qu'on le prétende.
Bon, bah écoutez, tant pis, c'était pour le beau rêve.
Mais oui.
Alors, il est là qui pousse, si je puis dire, à la porte. C'est le grand André Lenôtre, bien sûr, auquel nous avons consacré une émission il n'y a pas si longtemps avec Patricia Bouchenaud-Deschin. Lenôtre est très célèbre dans le monde entier. Quand on parle de Louis XIV et de Jardin, tout de suite, c'est le nom de Lenôtre qui apparaît. On a l'impression qu'il fait de l'ombre à votre la Quintigny, si je puis dire.
Il en fait énormément et malheureusement, à cause d'André Lenôtre, et Jean-Baptiste de la Quintigny ne bénéficie pas de la gloire posthume qu'il mérite. Cela est peut-être également dû à l'éducation nationale. Je ne veux pas accuser mes vieux professeurs, mais souvenez-vous, quand on apprenait l'histoire de Versailles, on disait que Louis XIV découvrait Volvicomte et qu'il ramenait avec lui les trois L, le veau, le brun et le nôtre. Si on avait dit les quatre L en rajoutant la Quintigny, ça aurait fait voiture. Et je crois que malheureusement, on a sacrifié André Lenôtre, la Quintigny, et cela est bien navrant.
Eh oui, alors ce la Quintigny a pourtant laissé des traces, il a laissé des écrits, il voulait transmettre, il voulait faire école, c'est bien ça. D'ailleurs, il a eu des successeurs et qui ne sont pas minces, hein, c'est des personnes importantes.
Il a eu de très grands successeurs. Jean-Baptiste de la Quintigny a écrit par exemple un manuel sur la manière de tailler, ce sont des instructions pour tailler les arbres fruitiers. Lorsque vous lisez le texte aujourd'hui, eh bien ce texte n'a rien perdu de sa fraîcheur, rien perdu de son actualité. Mieux, il est plaisant à consulter. C'était un littéraire.
Et voilà, c'est ça.
C'était un homme fabuleux, un homme exceptionnel.
Il avait une formation de philosophe et de juriste.
Oui,
donc
en plus, c'était un homme qui avait une éloquence extraordinaire. Ça, on le devait certainement à son métier ancien d'avocat. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la différence énorme entre Lenôtre et la Quintigny, Lenôtre rêvait d'être peintre, il fera comme papa et comme grand-papa, il finira jardinier en rachetant la charge.
Avec une très belle collection de peintures, au demeurant.
Tout à fait, oui, mais il était quand même un petit peu peintre contrarié, je ne dirais pas raté, l'homme avait du talent.
Ah oui, Jean-Baptiste même du génie.
Oui, Jean-Baptiste de la Quintigny est avocat, il gagne très bien sa vie. Effectivement, il vient de province, il travaille à Paris, mais cet homme se prend de passion pour le végétal, il va exceller dans cette discipline. Et nous laisser un témoignage unique, aller découvrir le potager du roi, aller voir cet agencement, être capable de transformer un lieu de production en un lieu de délices, eh bien je peux vous assurer que cela n'est pas donné à n'importe qui.
Et pourtant, en dépit de la faveur du roi, il mourra sans fortune, contrairement à Lenôtre du reste.
J'ai toujours eu pour raisonnement qu'un jardinier qui meurt riche, il est suspect à mes yeux. Moi, il est suspect. Et c'est vrai que Jean-Baptiste de la Quintigny ne s'est pas enrichi. Lenôtre était d'une fortune colossale, mais l'homme était également pingre. Une petite anecdote que vous connaissez certainement. Lenôtre est hébergé par le monsieur de Pontchartrain. Il est un vieil homme. Pontchartrain lui fait profiter de son hospitalité et en profite, bien sûr, pour demander quelques conseils pour son jardin. Eh bien, Lenôtre, l'hôte de Pontchartrain, lui facturera ses conseils. C'est quand même pas très digne.
Ah oh ben oui, enfin, il fallait peut-être nourrir toute l'agence aussi.
Oui, peut-être également. Non. Mais la Quintigny était un homme qui partageait. Et puis c'est un homme, quand on présente au roi des plantes extraordinaires, des pommes fabuleuses, quand on présente en janvier des asperges d'une qualité inouïe, on est un homme de fête, on est un homme de partage, on n'est pas un homme d'argent, de bien.
Faut dire qu'il y avait autour de Louis XIV, je parlais d'André Lenôtre qui était l'ami du roi, mais il y avait aussi un homme comme Jules Hardouin-Mansart, qui étaient des courtisans extraordinaires, hein, des hommes de cour, des hommes de pouvoir. Il semblerait que la Quintigny ne fasse pas partie de cette catégorie, en quelque sorte.
Non, et vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, à cause de cela, il énervait considérablement, parce qu'il n'était pas homme de cour, il n'était pas homme à faire des courbettes, et pourtant, personne ne pouvait l'atteindre car il était protégé par le roi et très apprécié par le roi. Alors, donc je crois que Jean-Baptiste de la Quintigny a dû aussi de temps en temps s'amuser quelque peu de cette situation.
On peut encore voir le potager de la Quintigny à Versailles.
Ça, on doit y aller, il faut le dire.
Rue de l'Orangerie.
Rue de l'Orangerie, découvrir le travail effectué par Antoine Jacobson et toute son équipe. Un travail remarquable. Ce lieu qui n'est pas un lieu de conservation du patrimoine végétal, il faut le préciser. Certains s'étonnent.
Ce n'est pas un conservatoire.
Ce n'est pas un conservatoire. Peut-être accessoirement de la forme de taille. C'est-à-dire que les plantes sont présentées d'une manière de taille extraordinaire, mais on y découvre un endroit qui a une âme, une histoire, on y découvre finalement l'origine même du potager, et puis on découvre un lieu d'exception, un lieu qui a été créé sur des terres ingrates, un étang puant, comme vous l'avez souligné, un lieu qui a permis à Louis XIV de faire des tables de fête, de faire, j'allais dire, saliver toutes les cours d'Europe.
Alors, quand j'habitais à Versailles, on pouvait aller acheter le vendredi matin certains fruits du potager du roi. Est-ce que c'est encore possible ? Ça existe toujours, ça ?
Je ne connais pas votre âge, je ne vous le demanderai pas, mais depuis, il est même possible d'acheter du jus de fruits, du miel, évidemment. Bon. Bien évidemment, les portes restent ouvertes.
Est-ce que c'était le cas, nous demande David, est-ce que c'était déjà le cas autrefois, du temps de la Quintigny ?
Oui, alors, les produits non consommés par le roi étaient offerts à la famille.
Revendus par le cerdeau,
Ainsi de suite, et pour être finalement revendu. Je pense qu'il y avait certainement une magouille épouvantable du temps de Louis XIV avec les produits du potager, mais oui, il était possible d'acheter les produits produits par la Quintigny.
Alors il faudrait parler bien sûr du potager conservatoire du château de la Bourdaisière à Mont-Louis-sur-Loire, du potager de la Roche-Guyon bien entendu, des jardins de Villandry, enfin toutes sortes d'endroits où le potager est mis à l'honneur. Un mot peut-être de votre potager à vous, celui du hameau de la Reine.
Alors c'est un potager qui est un potager qui était théâtral. C'est un potager.
Alors là, on est un siècle plus tard. Hein.
Voilà, on est avec Marie-Antoinette. Ce potager est créé pour permettre à Marie-Antoinette d'avoir le sentiment d'être vraiment reine de son petit village, non loin du Petit Trianon. Dans ce potager, on y plante des choux, on y plante des artichauts, on y plante également des arbres fruitiers. Mais, chose amusante, ce potager, depuis un an, est redevenu un véritable potager qui alimente l'une des tables les plus prestigieuses de Paris.
Eh bien voilà, de quoi on a tous envie de se remettre à la culture d'un seul coup là. Essayer de faire pousser des fraises sur mon balcon. À une époque, je le faisais, pourquoi pas. Alain Baraton, le dictionnaire amoureux des jardins, est édité évidemment chez Plon et il a donné naissance chez Pocket au petit dictionnaire amoureux des jardins. Et pour deux Pocket achetés,
un troisième est offert.
Vous voyez, Anissa, je fais presque votre travail.
C'est vrai.
Et puis sous la direction d'Alain Baraton, de Laure de Chantal, Le Jardin des Dieux, une histoire des plantes à travers la mythologie, ça c'est à paraître chez Flammarion. Merci beaucoup Alain Baraton.
Merci.
Et dans un instant, Franck, vous allez répondre à la question de Martin sur les moyens employés autrefois pour entretenir les jardins. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous allez répondre à une question de Martin via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Bonjour Franck et à toute l'équipe. Les pelouses de nos châteaux sont aujourd'hui impeccables. Mais par le passé, comment étaient entretenus les jardins lorsqu'il n'y avait pas de tondeuse ?
Et d'autant plus que ces jardins étaient admirablement entretenus. Il suffit de voir certaines des gravures du parc de Marly, par exemple, avec des tailles absolument inouïes. Il n'y avait pas de tondeuse, mais il y avait de la main-d'œuvre à Alain Baraton. C'est peut-être ça le secret, en fait. Hein.
Les moyens que la République ne possède pas. Il y avait de la main d'œuvre et des petits ciseaux métalliques et bien sûr les faucilles.
Eh oui, bien sûr, les serpettes, les faucilles. Un nombre d'outils d'ailleurs considérable qu'on peut voir encore au Musée des Arts et Métiers par exemple et qui a diminué. Il y a moins d'outils à la disposition des jardiniers aujourd'hui qu'il n'y en avait au XVIIIe siècle. C'est curieux ça quand même.
C'est navrant.
C'est navrant, mais bon, on avait toutes sortes d'outils pour faire des choses extrêmement spécifiques, pour avoir des... chaque outil était directement adapté à sa tâche, bien entendu. Les outils en question, ils naissent dans le courant du Moyen-Âge, on va dire, même s'il y avait des outils dans l'Antiquité, mais on n'est pas très expert de la question. La faux va apparaître dès le XIIIe siècle, les cisailles, les serpes, etc. Puis ça se raffinera considérablement à partir de la fin du XVIe siècle, quand le jardinage devient au sens propre, ce qu'on appelle l'art des jardins. Alors il y a un autre moyen de tondre, puisque notre auditeur parlait de pelouse, ce sont les animaux tondeurs, figurez-vous. Alors on peut utiliser le mouton, qui est très apprécié parce qu'il est, réputé contentieux, c'est-à-dire qu'il travaille lentement, il ne brouterait, dit-on, que l'herbe d'une longueur de 6-8 cm au moins, alors que la chèvre, elle, est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mais qu'elle a tendance à tout détruire sur son passage. Je vous signale, et là on est dans une histoire tellement récente qu'elle peut presque faire figure d'actualité, qu'en mai dernier, en mai 2015, deux moutons et une chèvre ont été chargés de tondre un talus de 3800 m² au bord des lignes du RER B à Orsay. Comme quoi, on est capable encore aujourd'hui d'avoir recours à des méthodes ancestrales.